Alors, bonjour tout le monde. On peut tourner ensemble dans le livre d'Exode au chapitre 20. Je vous encourage toujours à apporter vos Bibles, même si on affiche les passages à l'avant. On veut simplement accommoder des gens qui peut-être n'auraient pas de Bible avec eux. Alors, Exode 20, ensemble. On est en train d'avancer, justement, comme ça a été mentionné tout à l'heure, dans la série sur les 10 commandements. Et ce matin, on s'en va vers un commandement pas mal délicat. Hier soir, je parlais de ça avec mon garçon, puis il dit, c'est court quand même, y a-t-il vraiment quelque chose à dire de plus? C'est une phrase. Hein? Je dis, tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire de plus. On va aller ensemble dans la prière, d'accord? Père, on est assemblés ce matin pour recevoir de toi, Seigneur, pour recevoir de toi tes instructions, tes enseignements. C'est vrai que c'est un commandement qui est court, Seigneur, mais qui parle finalement de tout, parce qu'il parle de la vie. Il parle du Dieu qui donne la vie, il parle de nos vies, il parle de chaque vie humaine, Seigneur. Père, je te prie de venir parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler, Seigneur, des êtres humains, de ton amour pour eux. Viens nous parler, Seigneur, de ton amour pour nous, qui tellement souvent nous comportons, Seigneur, durement les uns envers les autres et péchons, Seigneur. Si ce n'est en action, Seigneur, c'est dans nos cœurs et en parole. Viens nous bénir, viens nous rencontrer, Seigneur, et que ce matin, lorsque nous allons nous quitter les uns les autres, nous partions avec le cœur rempli de ce désir d'élever, d'honorer, Seigneur, la vie. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu que Mireille va nous lire.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Exode, au chapitre 20, versets 1 à 13, édition Louis II. Donc, au chapitre 20, versets 1 à 13. Extrait des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point.
Merci, Mireille. Ce matin, on parle de vie. Le commandement parle de mort, mais ce matin, on parle de vie. La Bible est un livre qui parle de la vie, parce que Dieu est l'auteur de la vie. Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu a créé la vie, qu'il a donné la vie et qu'il donne même la vie éternelle. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, je vous lis rapidement, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dieu nous a créés en nous donnant la vie. Et Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous recréer en nous donnant la vie éternelle. La Bible est un livre qui parle de vie. Et la Bible nous dit que Dieu est l'auteur de la vie, de ta vie, de ma vie, et que Dieu est l'auteur de la vie éternelle aussi. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu est non seulement l'auteur de la vie, mais qu'il est le maître de la vie. Conclusion, tu n'es pas l'auteur de ta propre vie, c'est quelque chose qu'on t'a donné, et tu n'es pas le maître de ta propre vie. Ce n'est pas le message qu'on entend généralement dans la culture. Généralement, la culture va te dire, tu dois prendre possession de ta vie. C'est ta vie, elle t'appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. C'est ta vie à toi. Écris ton histoire. Prends une plume, décide de ton destin. C'est ta vie, elle est à toi. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Peut-être que la vie, c'est un cadeau que tu as reçu, pour laquelle tu vas rendre compte aussi. Peut-être que ta vie est plus grande que toi. Peut-être que ta vie est précieuse parce que c'est Dieu qui te l'a donnée. Et donc, tu n'en es ni l'auteur, ni le maître, mais tu es responsable de ce que tu vas faire avec ta vie, avec la vie. Ce matin, à travers ce commandement-là, on va parler de vie et de mort. Et j'aimerais commencer en déposant un fondement. C'est vrai que le commandement est très, très court, mais ce commandement-là s'inscrit dans toutes les Écritures, d'accord? Et on ne peut pas bien comprendre ce commandement « Tu ne tueras point » si on ne dépose pas un premier fondement. La vie humaine est précieuse et sacrée. Comme je l'ai dit, parce que Dieu en est l'auteur. La vie humaine est précieuse et sacrée. Un auteur, un théologien pasteur que j'aime beaucoup, Philip Ryken, a dit ceci. Je vais juste vous lire, ça ne sera pas affiché. Soyez bien attentifs. Ce qui rend la vie si précieuse est que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Dieu a mis son empreinte sur chacun de nous, tout comme un artiste signe son nom sur une œuvre d'art. Par conséquent, endommager une vie revient à défigurer l'un des chefs-d'œuvre de Dieu. Ce qui fait que la vie humaine est sacrée, que ta vie est plus grande que toi, c'est que tu n'en es pas l'auteur. Bon, peut-être que tu es le co-auteur de certaines pages de ta vie, mais tu n'en es pas l'auteur, tu n'en es pas le créateur. Et Dieu a créé chaque être humain à son image. Il y a donc le reflet de Dieu en chaque âme humaine, en chaque être humain. Et pour cette raison-là, la vie humaine est sacrée. Jean Calvin, protestant réformateur français, a écrit ceci. « Notre prochain est à l'image de Dieu. » L'utiliser, abuser de lui, le maltraiter, c'est faire violence à la personne de Dieu qui reflète son image en chaque âme humaine. Voilà pourquoi ton prochain est précieux. Parce que chaque personne ici, beau, pas beau, grand, fort, petit, autonome, dépendant, brillant ou pas, chaque être humain est un reflet de la personne de Dieu. Et chaque fois que je maltraite, que j'abuse, que l'on tue un être humain, on s'en prend à Dieu en personne. On s'en prend à la personne de Dieu. De la même manière que vous auriez profondément offensé si vous étiez devant une belle toile de Rembrandt, et puis il était là en disant « Pis comment tu la trouves? » Puis vous sortez une hache, puis vous commencez à frapper dedans. Oh, bien plus que ça encore. Bien plus que ça encore. Bien plus que ça encore. Maintenant, on vit à une époque où l'aspect sacré de l'être humain est en train de disparaître. D'accord? C'est le fruit de la théorie de l'évolution, évidemment. C'est une vision très, très matérialiste de l'homme. Nous ne sommes que de la matière et cette idée que l'être humain a une âme et que l'être humain est un être sacré, chaque être humain, est en train de disparaître dans la pensée occidentale. Ça occasionne un paquet de problèmes. On va avoir le temps d'en énoncer tout à l'heure très rapidement quelques-uns. Mais bien des gens ne reconnaissent plus le caractère sacré de l'être humain et ne nous voient simplement que comme une espèce animale. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a rien en commun avec les animaux, mais ils ne nous voient que comme des animaux. Je vais vous lire une longue citation, d'accord, qui a été écrite par un scientifique de la reproduction humaine, M. Malcolm Potts, professeur de santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Californie à Berkeley. Voici ce qu'il dit. Nous ne pouvons plus fonder notre éthique sur l'idée que les êtres humains sont une forme particulière de la création à l'image de Dieu, distinct de tous les autres animaux, seul possédant une âme immortelle. Non, il dit, c'est fini ça. Une fois ce charabia religieux rejeté, nous pouvons continuer à nous voir comme des membres normaux de notre espèce, possédant une plus grande capacité de rationalité, la conscience de soi, la communication que les membres des autres espèces, mais nous n'allons pas considérer comme sacro-saint la vie de chaque membre de notre espèce. Mais ça conduit à toutes sortes de choses. L'être humain n'est que matière animale, c'est tout. Il n'y a plus rien de sacré dans l'être humain. L'être humain devient un objet d'étude, devient un potentiel, une matière d'étude. Les Saintes Écritures nous disent que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, est un reflet de la personne de Dieu, et que pour cette raison-là, la vie humaine est sacrée. On pourrait dire dans un sens que toute la création est sacrée. Parce que toute la création, la terre, les étoiles, portent l'empreinte de Dieu aussi. D'une certaine manière, c'est l'œuvre de Dieu. Mais d'une manière particulière, Dieu créa l'homme et la femme à son image. À son image. Et par conséquent, chaque vie humaine est sacrée. Retenez ceci quand tout à l'heure on va parler de meurtre. Quand tout à l'heure, on va parler de suicide, quand tout à l'heure, on va parler d'avortement, retenez ceci. Chaque vie humaine est sacrée. Et parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu, c'est Dieu qui est maître de la vie et de la mort, de ta vie et de ta mort. Je peux décider de vivre comme si tel n'était pas le cas, mais ça demeure la réalité. Dieu seul est maître de la vie, il la donne et il la reprend en son temps selon son dessein, selon qu'il le juge bon. On lit dans le psaume 139 au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alors, j'aime dire, et généralement, on aime voir les chrétiens, la vie qui nous est confiée, ma propre vie, même pendant quelques années, la vie de mes enfants, les biens matériels qui me sont donnés, la terre sur laquelle on a été placé, tous comme des objets de notre intendance. On est là comme des intendants. Dieu nous confie des choses et nous sommes appelés à les administrer, à en prendre soin, à les soigner, à les chérir pour sa gloire. Il en va de même de ma vie. Parce que le psalmiste me dit ici qu'avant que je naisse, avant que Jean-Pierre Étier, Louise Paré se rencontrent puis se disent « Hey, on se marierait-tu? Puis on ferait-tu des enfants? Hey, celui-là, je pense qu'on va l'appeler Thierry. Ah non, on va l'appeler Yannick finalement. » Avant tout ça, les jours de ma vie, de ma naissance à ma mort, étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu. Et Dieu était déjà maître de cela. Dieu est maître de la vie et de la mort. Dernièrement, je parlais avec une jeune fille qui, pendant que j'étais en train de lui partager ça, a dit, tu insistes beaucoup sur l'être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire, des animaux? T'es comme en train Tu es comme en train de laisser entendre que c'est différent, que ce n'est pas la même chose. En effet, c'est ça que les Écritures nous disent. La parole de Dieu nous dit que toute la nature, on l'appelle la création, tout a été créé par Dieu. Et donc, tout ce que Dieu a créé mérite notre admiration, mérite notre respect, mérite notre affection. J'aime la terre où je vis. Chez nous, on a deux chiens. Un qui a de l'air d'un chat avec des dents, tu sais, parce qu'il pèse 9 livres. Puis, on a un vrai chien aussi. Lui, il jappe fort, tu sais. Puis ces deux animaux-là sont précieux dans la maison. Si vous entrez chez nous, ils font partie de la famille. C'est pas des cabots à qui on est en train de donner des coups de pied, même si c'est ça qu'on m'a appris qu'on faisait des fois avec des chiens. Non, ils sont précieux. On les aime. Sarko, c'est un vieux chien. Il dit, t'es ma vieille peau, toi. Il a de la misère à marcher. Puis il s'en allait se faire piquer. Mais non, il fait partie de notre famille. Je dis à mon papa, laisse-moi là, on va le prendre à la maison. Il est là encore pour quelques années avec nous, il fait partie de la famille, il fait partie de notre histoire. Donc, on les aime, vous comprenez? Mais les Écritures me disent aussi que l'être humain, d'une manière tellement particulière et tellement unique, qu'au-delà même des anges, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est assez mystérieux, je vous avoue. C'est assez mystérieux et je ne vais pas m'étendre sur ça ce matin. Qu'est-ce que c'est cette image de Dieu en nous? Mais clairement, les Écritures font cette distinction-là. Alors, qu'est-ce qu'on est appelé à faire avec le reste de la création? On est appelé à honorer Dieu en prenant soin. Oui, c'est vrai, on est appelé à être sensible à la nature. On n'est pas appelé à gaspiller. On n'est pas appelé à polluer impunément sans réfléchir. On n'est pas appelé à traiter cette terre-là. Et vraiment, des fois, on va entendre une pensée, honnêtement, imbécile, chez certains chrétiens qui vont dire des choses comme « De toute façon, ça va pourrir, fait qu'on s'en fout. » Écoute, ça fait longtemps que tu n'as pas lu la Genèse, copain. Dieu nous a confié la terre pour qu'on en prenne soin, qu'on soit de bons intendants. Il n'y a rien que Dieu t'a donné pour que tu le tires par la fenêtre. Et donc, toutes ces choses-là sont importantes. Et dans cette mesure-là, tout est sacré, mais d'une manière particulière. Dieu a créé l'homme à son image, afin que l'homme entre en communion avec lui et qu'il le glorifie d'une manière fort différente. Fort différente. Par cette conscience de l'être, par cette conscience de son Créateur, par cette communion. Et pour cette raison-là, la vie de mon prochain, quel qu'il soit, est précieuse. Qu'il croit ce que je crois, qu'il pense comme moi, qu'il soit d'accord avec moi, qu'il soit gentil ou méprisable dans ses attitudes, qu'il soit bon ou méchant, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il semble avoir une contribution à faire à la société ou non, ça n'a aucune importance sur sa valeur. Parce que sa valeur n'est pas définie par cela. Sa valeur est définie par le fait qu'il est une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, et qu'il porte en lui cette image de Dieu. Qu'il puisse l'articuler, qu'il soit brillant, qu'il soit un génie, ou qu'il soit un déficient intellectuel profond, il est créé à l'image de Dieu. Non comme le reste des êtres vivants, mais d'une manière spéciale, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Et pour cette raison-là, chaque vie humaine est sacrée. Et par conséquent, dans mes rapports, dans mes relations avec mon prochain, avec l'homme, avec la femme que Dieu place devant moi, je suis appelé à le traiter comme mon égal. Comme celui en qui je vois le reflet de la personne de Dieu. Un reflet de moi-même, un reflet de Dieu. Non pas comme si j'étais Dieu, mais parce que moi-même je reflète Dieu. Et ceci nous amène au commandement lui-même. Comme la vie humaine est sacrée, Dieu est le meurtre. Dieu haït le meurtre. Profondément, Dieu haït le meurtre. Dieu déteste ça. Et donc, lorsqu'on trouve ce commandement-là, Israël se prépare à se constituer comme une société. Ils vont aller dans un pays, il va y avoir des normes, il va y avoir des règles. Et Dieu leur dit, vous ne serez pas des meurtriers parce que la vie humaine est sacrée. tu ne tueras point. Maintenant, le mot qui est là, c'est deux mots en fait, juste deux mots. Lo ratza. Et qu'est-ce que ça dit tout simplement? C'est tu ne tueras pas. Il y a huit autres mots, il y a sept autres mots que Dieu aurait pu utiliser ici pour définir ce qu'il est en train de dire, d'accord? Qui parle de mettre à mort quelqu'un. Dieu a décidé d'en utiliser un spécifiquement qui, par exemple, ne parle pas de ce qui se passe à la guerre, qui ne parle pas non plus d'abattre des animaux. Et donc, ce serait plus juste de traduire cette expression-là, lo ratza, par « tu ne commettras pas de meurtre ». Tu ne mettras pas à mort injustement. Dieu interdit le meurtre, pas tout à fait la mise à mort. Et je vais y venir dans quelques instants, d'accord? Je vous dis, il y a une partie d'entre vous, vous ne serez vraiment pas content avec moi quand vous allez quitter un matin. Vous avez dit, Yannick, généralement, il n'est pas pire, mais là, je ne suis pas d'accord. C'est correct, pas de trouble avec ça. Étudiez la parole de Dieu, c'est là la mesure, ce n'est pas moi, d'accord? Mais clairement, le mot qui est utilisé ici, intentionnellement, lorsque Dieu a inspiré sa parole, le terme se traduit par « tu ne commettras pas de meurtre ». Et ce terme-là n'inclut pas toutes les mises à mort, d'accord? Il parle vraiment d'un « unlawful killing », une mise à mort immorale, une mise à mort qui n'est pas juste. Et ça, c'est ça qui est présent ici. Et l'idée, c'est cette image d'une mise à mort violente. Tu n'as pas à tuer quelqu'un, tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un, tu n'as pas à lui enlever la vie injustement. Tu n'as pas à faire ça. Maintenant, comme je vous dis, on est dans une société hyper matérialiste qui voit l'être humain comme de la matière animale, de la matière vivante, mais simplement comme de la matière de plus en plus. Et donc, ça amène toutes sortes de dérèglements, de contradictions, de choses étranges dans notre pensée, où on va regarder la vie humaine et on va déterminer laquelle est précieuse, laquelle ne l'est pas. J'aime souvent dire, à partir du moment où tu as un nom, tu as des droits. Tant que tu n'as pas un nom, tu n'as pas de droits. Avant ça, tu n'as aucun droit. Mais si tu as un nom et qu'on peut raconter ton histoire, tu as des droits. Et on va défendre tes droits. Avant ça, tu n'en as pas. C'est un sujet délicat dans lequel on rentre avec ça parce qu'on vit dans une culture qui est une culture de mort. On lit ça, tu ne tueras point, puis on se dit, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Mais on vit dans une culture de mort qui célèbre la mort, qui fête ça. Et puis moi-même, je réfléchissais, je me disais, il y a tellement, tellement, tellement de produits culturels, de films, de jeux, toutes sortes d'affaires qui fêtent la mort, qui célèbrent la mort, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a des choses à réfléchir sérieusement. Puis il faut définitivement enseigner nos enfants constamment sur le fait que la vie humaine est sacrée, d'accord? Mais on vit dans une culture de mort. Et par le fait que l'être humain est considéré simplement comme une matière animale, non pas comme un être sacré, un peu comme ce monsieur Malcolm Potts le définit, ça a toutes sortes d'incidences, ça amène toutes sortes d'implications. On va déterminer qu'on a le droit de vie et de mort, de la même manière que cette semaine, mon épouse m'a dit, écoute Yannick, il annonce beaucoup de pluie, les pissenlits sont en train de sortir. T'irais-tu lui trancher la tête avec la tondeuse? Ça sera pas beau. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, hein? Parce qu'on vit dans une société génocidaire à fond. Vous comprenez? On regarde, on lit les journaux, puis on regarde les journaux, puis on dit, c'est-tu terrible? Ils ont enlevé 200 jeunes filles et 200 étudiantes. C'est vrai que c'est terrible. C'est vrai qu'on devrait monter aux barricades. C'est vrai qu'on devrait dénoncer ça à fond. C'est vrai. Mais ça nous trouble. Pourquoi? Parce qu'elles ont un nom, ces deux jeunes filles-là, parce qu'on les a vues, on a vu des photos. Ils ont converti à la pointe de la mitraillette pour qu'ils deviennent musulmanes. Celle-là, ça nous trouble. Qu'est-ce qu'on fait de l'avortement? Qu'est-ce qu'on fait de l'avortement? Ils n'ont pas de nom. C'est juste des cellules. On vit dans une société génocidaire. C'est ça. C'est là qu'on vit. C'est là qu'on vit. Puis on débat, puis on dit, bon, à partir de quel moment est-ce qu'on va appeler ça un être humain? Mais ça simplement, mon ami, c'est à partir du moment où tu lui donnes un nom, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans ta tête. Mais vous voyez, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le problème ne s'arrête pas là. Je l'ai mentionné quelques fois dans des enseignements dernièrement, mais vraiment, ça m'a troublé de voir où on s'en va. Il y avait un spécialiste qui était en entrevue dernièrement puis qui était en train d'essayer d'éduquer la population pour combattre le suicide chez les jeunes hommes. Le taux de suicide, c'est chez les jeunes hommes qui est le plus élevé au Québec. Et puis, ce qu'il est en train de dire, tout simplement, il est en train de dire, il faut dire à ces jeunes hommes-là que ce n'est pas une option, le suicide. Parce que de plus en plus, dans leur esprit, c'est une option, le suicide. Mon épouse vient me voir, elle me parle de ça, troublée. Puis honnêtement, des fois, je suis comme trop lucide. Puis ça devient juste carré dans ma tête. Puis j'ai dit, oui, mais Esther, voyons donc. C'est juste de la matière animale, c'est pas sacré. Dans leur vision des choses, c'est comme ça. L'être humain, c'est juste de la matière animale, c'est pas sacré. Fait que si c'est ça que t'enseignes à un jeune toute sa vie, t'es juste le fruit de l'évolution. Il n'y a rien de sacré en toi. T'es bien chanceux d'être vivant. Ta mère s'est pas faite avorter. Là, maintenant, t'as un nom. Essaye la vie. Puis si la vie te plaît pas, t'as pas le droit de t'enlever la vie parce que tu vas faire beaucoup de peine aux gens autour de toi. Mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il fait, tu penses? Il se dit, ben regarde, de toute façon, je suis en vie parce qu'on a voulu de moi. Peut-être qu'on n'aurait pas voulu de moi. Quand je serai assez vieux puis je dérangerai, peut-être qu'on décidera de m'euthanasier. Si je l'aime pas, la vie, pourquoi j'aurais pas le droit de l'enlever, ma vie? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et ce spécialiste-là de dire, il faut leur dire que c'est pas une option, c'est inacceptable. Oui, mais t'as plus de fondement. Comprenez-vous? T'es le coyote qui est en train de poursuivre, puis qui a traversé le ravin, puis qui tout d'un coup regarde en bas, puis il n'y a rien où déposer tes pieds. T'as pas de fondement, c'est juste de la matière animale, c'est juste des molécules assemblées. Il n'y a rien de sacré là-dedans. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec sa vie. Si c'est comme ça que tu réfléchis, c'est là que tu t'en vas, mon ami. Puis finalement, la seule raison pour laquelle ce jeune homme-là ne devrait pas se suicider, c'est qu'il va faire de la grosse pépine à toutes les molécules autour de lui qui vont être dérangées par sa disparition. Mais si tu penses au suicide, là, parce que ta vie est tough, là, je comprends ça. Puis si tu as l'impression que ta vie vaut rien, là, je comprends ça. Puis si tu as déjà essayé de te suicider, je comprends ça, parce qu'on vit dans un monde difficile, puis notre cœur est tortueux. Mais ta vie vaut quelque chose, ta vie est sacrée. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, et avant que tu viennes au monde, dans son livre est inscrit tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Ta vie est sacrée. Et aux yeux de Dieu, t'es pas juste un numéro, t'es pas juste un nom qui va disparaître avec le temps. Ta vie est sacrée. Tu n'as pas droit de vie et de mort sur le fœtus. Tu n'as pas droit de vie et de mort sur ta propre vie parce que ta vie est sacrée. Et ça se peut que tu dises, oui, mais Yannick, elle est invivable, ma vie. Cette souffrance-là qu'il y a dans ton âme, c'est Dieu qui est en train de te dire, tourne-toi vers moi. C'est moi l'auteur de ta vie. C.S. Lewis a dit, la souffrance humaine est le porte-voix de Dieu pour se faire entendre. Ce mal à l'âme-là qu'il y a peut-être en toi, c'est Dieu qui est en train de t'appeler pour que tu tournes vers lui, vers l'auteur de ta vie. Ta vie est sacrée, ta vie est précieuse. La vie humaine est précieuse. Et pour toutes ces raisons-là, Oui, nous ne sommes pas pour l'avortement. Oui, on n'est pas pour l'avortement. Oui, on est contre le suicide. Oui, on est contre le suicide assisté. Oui, on est contre l'euthanasie. Parce que la vie humaine est sacrée. Toutes les vies humaines sont sacrées. C'est pas parce que la terre va mal puis qu'on voit des millions et des millions de personnes mourir constamment que la vie humaine ne devient plus sacrée. C'est pas parce qu'on est dépassé par la misère dans le monde puis que lorsque je lis le journal, j'ai l'impression qu'il y a tellement de morts, tellement de morts, tellement de morts qu'à un moment donné, il faut que ça devienne des numéros pour moi, il faut que j'efface ça de mon esprit. Je comprends, t'es pas Dieu. Dans ton livre à toi, le nombre de jours de l'existence de chaque âme humaine n'est pas là. Mais dans le livre de Dieu, c'est là. T'as pas à porter tout ça sur tes épaules, mais simplement reconnaître que Dieu est là. Et que non, l'être humain, même si à bien des égards il ressemble aux autres espèces animales, n'est pas simplement un animal. Il a été créé à l'image de Dieu. Juste une parenthèse, parce que je n'aurai pas le temps de m'étirer sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on est pour l'acharnement thérapeutique, d'accord? C'est pas ça que je suis en train d'induire. Je pense aussi que lorsque Dieu dit que ton temps est fait, ça peut être correct de dire « mon temps est fait », d'accord? Qu'est-ce que les Écritures disent sur la mise à mort de ceux qui ont enlevé la vie? Parce que les Écritures sont super claires là-dessus. Tout à l'heure, j'ai pris le temps de faire cette nuance-là. Et je vais être bref sur ça, mais c'est quand même une question importante, d'accord? Clairement, Dieu réclame le sang de celui qui a commis le meurtre. C'est là dans tout l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne vient pas dénoncer cela. Parce que la vie humaine est sacrée, Dieu dit qu'il confie aux autorités le mandat d'intervenir. Et clairement, Dieu réclame le sang de celui qui enlève la vie. Maintenant, ça peut vous troubler, je le comprends. Mais est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est rendu dans cette espèce de folie-là où on va défendre bec et ongle la vie du meurtrier, mais on va mettre à mort des millions de fœtus? Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est rendu avec ça? L'apôtre Paul a écrit dans Romains 13, les versets 3 à 5, « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter, les autorités civiles. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. » Je suis d'accord, ils ne sont pas toujours justes, il y a des états dictatoriaux. On est en train de parler du principe général ici. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, ce n'est pas pour te donner une tape ses fesses. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Dieu met en place les autorités. Si les autorités décident que le meurtrier doit mourir, les Écritures sont en accord avec ça. Parce que la vie humaine est sacrée. Parce que celui qui enlève une vie humaine va rendre compte pour ça. Clairement. Dans Genèse 9:6, on lit ceci. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et donc, il ne suffit pas simplement de dire « Dieu s'arrangera avec les meurtriers ». Dieu nous a demandé de le refléter dans nos rapports les uns avec les autres et Dieu a institué les autorités civiles. Elles sont là pour qu'on les craigne et les respecte. Parce que l'être humain est pécheur. Alors, qu'est-ce que ça fait de nous, les chrétiens? Contre l'avortement, souvent explicitement pour la peine de mort. Bien, dans les médias, souvent, ce que ça projette comme image, c'est qu'on a de l'air d'une gang de gens bien fâchés. Bien méchants. Bien enragés. Parce que c'est vrai, si vous m'entendez parler d'avortement, j'ai beaucoup de difficultés. Esther a commencé à me parler de différentes injustices hier, puis j'ai dit, « Ah, chérie, ma journée est belle, arrête, s'il te plaît. » ça va bien jusqu'ici, il fait beau là. Arrête, s'il te plaît, je vais pêcher. Est-ce que ça veut dire qu'on doit haïr les meurtriers? Est-ce que ça veut dire que les chrétiens, ça doit être des gens fâchés, des gens en colère constante contre la société? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que les Saintes Écritures nous disent que nous sommes tous des meurtriers. Je me tourne vers le Nouveau Testament, où Jésus, souvent, ce que Jésus a fait lorsqu'il enseignait, il prend des enseignements qui sont là dans l'Ancien Testament, puis trop facilement, l'être humain les prend juste au premier niveau, au premier degré. Puis Jésus dit, « Oui, mais vous ne comprenez pas l'essence de ce qui est derrière ça. » Si mon père a interdit en Israël de se promener et de commettre des meurtres, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que la vie est sacrée et qu'elle mérite d'être aimée? D'être aimée, d'être chérie, d'être précieuse dans nos cœurs. Et donc Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 21 et 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » C'est quoi que les juges faisaient avec les meurtriers? La mise à mort. « Que celui qui dira à son frère « Raca, maudit, insensé » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Jean Calvin, le même que j'ai cité tout à l'heure, appelle ça les meurtres du cœur. Il appelle ça les meurtres du cœur. Et donc, ce que Jésus fait ici, Jésus est simplement en train de nous ramener à cette idée que la vie humaine est sacrée. Et il ne s'agit pas simplement de ne jamais sortir le couteau pour aller frapper ton voisin. Il s'agit de ce qui se passe dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos cœurs. Et donc, les Écritures nous disent que c'est un meurtre d'haïr. D'haïr un meurtrier. D'haïr un meurtrier. C'est un meurtre. C'est ce que les Écritures nous disent. Et si je n'ai pas passé à l'action, j'ai du sang sur mes mains lorsque j'ai haï. L'homme que Dieu a créé, j'ai du sang sur mes mains parce que j'ai commis ces meurtres du cœur. Dans Jean 3, 15, on lit ceci, « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » C'est un domaine où les chrétiens doivent se démarquer. Voyez-vous, on vit à une époque où le fondement pour aimer les gens autour de toi, c'est une tolérance, c'est un respect de l'autre, c'est une espèce de partage. Puis tout ça se fait dans cette espèce de vision où si tu es assez fort pour te rendre au banquet, tu as un nom, on va te protéger, on va partager un peu avec toi. Les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui n'ont pas de nom, non, peut-être qu'eux autres ne se rendront pas. On n'a pas à prendre leur défense nécessairement, d'accord? Mais pour nous, chaque être humain est une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Et c'est un domaine où, comme chrétien, on doit se démarquer avec une attention. Ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de dire, non seulement tu ne dois pas être un meurtrier, mais dans ton cœur, les sentiments que tu dois avoir envers les autres, ce sont des sentiments d'amour, d'affection, de tendresse. Il n'y a pas de place pour que dans ton cœur, tu haïsses ton frère. Alors, je ne sais pas comment tes enfants te voient. Tu leur parles du christianisme, tu leur parles de la foi, puis ils te connaissent comme quelqu'un de fâché. Est-ce que tu es quelqu'un de fâché? Moi, je vous confesse que des fois, je pense que mes enfants me voient comme quelqu'un de fâché. Oh, papa, c'est quelqu'un de sérieux. La vie est dure, les gens ne sont pas gentils, on vit dans un monde de péché. Est-ce que tu es quelqu'un de fâché? Est-ce que tu es quelqu'un de dur dans les rapports humains? Ou est-ce que lorsque les gens entrent en contact avec toi, qui que ce soit, sent qu'il est un être spécial? Est-ce que tu es quelqu'un qui garde rancune? Est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui réclame toujours la justice? Garde rancune au nom de la justice. C'est du sang sur tes mains. Si tu as juste eu la décence de te maîtriser et de ne pas passer à l'acte physiquement, c'est du sang sur tes mains. Parce que chaque être humain est sacré et précieux. Chaque vie humaine l'est. Et c'est vraiment un domaine où, à notre époque, où l'humanité de plus en plus voit l'être humain comme une matière animale, un être simplement matériel. Nous sommes appelés à traiter les aînés, les gens en perte d'autonomie, les gens qui sont fragiles, tout le monde, les gens même qui sont méchants. On doit se démarquer par cette attention, cet amour, cette affection, cette disponibilité pour les êtres humains. C'est un endroit où on doit se démarquer. Et on ne doit pas entrer dans cette culture-là. Et donc, les chrétiens ne doivent pas être connus comme des gens fâchés contre tout le péché dans le monde, tous les meurtriers. Ils doivent être connus comme des gens qui voient le mal et qui aiment les gens, qui voient le péché et qui aiment les gens. Et ces deux idées-là doivent clairement être visibles dans tes rapports humains. Regarde Jésus vivre, c'est clair, c'est présent. Tu vois sa compassion, sa tendresse, sa haine pour le péché, son amour pour les hommes. Tu vois constamment chez Jésus. Et on doit ressembler à ça. Parce qu'autrement, nous ne sommes pas mieux que ceux qui enlèvent la vie humaine. Et par mes paroles, me dit le livre des Proverbes, je peux faire mal comme un glaive peut faire mal. Je peux tuer dans ma maison avec ma bouche. Je peux tuer autour de moi avec ma bouche. Les Écritures me disent qu'aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Aucun meurtrier va entrer dans la présence de Dieu. Et nous sommes tous des meurtriers. Nous sommes tous des meurtriers. Parce que nous avons tous haï. Parce que nous avons tous haï. C'est vraiment spécial et c'est vraiment troublant et beau à la fois que l'image la plus importante dans toutes les scènes d'Écriture, c'est une scène de meurtre. On est vraiment dans le lo ratsach, parce que c'est une mort injuste. C'est vraiment un meurtre qui est commis là sur la croix lorsque Jésus est pendu au bois. C'est vraiment un meurtre qui est commis là parce qu'il ne méritait pas ça, vous comprenez? Le bras de la justice a servi le mal ici. Le bras de la justice a servi les hypocrites. Le bras de la justice a servi les pécheurs qui se sentaient mal dans la présence de Jésus parce qu'ils voyaient qu'ils étaient pécheurs. Ils ont décidé de se débarrasser de celui qui les gênait. Et Jésus est là sur la croix et il regarde tous ses meurtriers. Puis qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est mort pour des meurtriers. Et nous sommes tous des meurtriers. Nous sommes tous des meurtriers. Jésus est mort pour des gens violents dans leur cœur, violents physiquement. Jésus est mort pour des gens qui ont le cœur dur et qui ne traitent pas les gens qu'ils côtoient comme étant précieux. Jésus est mort pour des gens qui ont la haine dans le cœur. Et il les a regardés et il leur a dit, « Je vous aime. Je meurs pour vous sur la croix, afin que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. » Cette semaine, lorsque vous allez parler à la maison, je vous invite à méditer sur ça. Est-ce que vous êtes en train de tuer avec votre bouche? On va passer un temps de louange ensemble. Et je vous invite à méditer sur ça alors qu'on va chanter ensemble. Est-ce qu'il y a de la haine dans ton cœur? Est-ce qu'il y a du mépris dans ton cœur? Lorsque tu entends parler de meurtre dans le monde, lorsque tu vois l'état de la société et tu vois que l'être humain n'est plus traité comme étant sacré, est-ce que tu haïs les gens ou est-ce que tu haïs le mal et aimes les gens? Quand les gens te côtoient au travail et qu'ils apprennent que tu es chrétien, est-ce qu'ils disent « Je comprends pourquoi tu es stiff de même, mon homme. Je comprends pourquoi tu es pogné comme ça. » Ou est-ce qu'ils disent « Il me semblait qu'il y avait quelque chose de spécial avec toi. Chaque fois que je te parle, il y a quelque chose de spécial avec toi. » Lorsqu'il y a des tensions au travail, lorsqu'il y a des conflits au travail, est-ce que vous êtes un agent de paix qui vient célébrer la vie, qui vient nourrir cette vie-là? Lorsque vous parlez à vos enfants, ce qu'ils connaissent de vous, est-ce que c'est que vous attendiez d'eux qu'ils soient de bons petits soldats qui rentrent dans le rang de la religiosité? Ou est-ce qu'ils entendent qu'ils sont précieux, créés à l'image de Dieu, qu'ils sont là pour glorifier Dieu? Et ils sentent toujours cette considération, cet amour? Ou est-ce qu'ils sont l'objet de votre impatience, de votre colère? La vie humaine est sacrée, les amis. Et si dans ton histoire, t'as considéré le suicide, si tu considères le suicide, si dans ton histoire, tu as enlevé la vie en te faisant avorter, si dans ton histoire, t'as haï des gens pour les tuer, sache que Jésus est mort sur la croix pour des meurtriers. Et un de ceux qui a écrit la plus grande part du Nouveau Testament, c'est un tueur en série. C'est l'apôtre Paul. C'est un tueur en série de chrétiens. C'est un meurtrier. Alors Dieu t'aime. Il veut te faire grâce. Parce que ta vie est précieuse, ta vie est sacrée. Il veut te pardonner tous ces péchés-là. Pour que tu entres en communion avec lui, qu'il te donne la vie éternelle et que tu célèbres la vie cette semaine. Alors de grâce, ne soyons plus des meurtriers, ne serait-ce que dans nos cœurs, mais célébrons la vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, alors que nous pouvions te mépriser, Seigneur, alors qu'on pouvait haïr notre prochain. Tu as aimé des hommes, Seigneur, qui maltraitaient la vie, qui massacraient des gens, Seigneur. Et encore aujourd'hui, tu tardes à revenir parce que tu aimes cette terre et tu patientes afin que d'autres hommes et femmes violents comme nous se tourne vers toi et accepte ce pardon que tu as prononcé sur cette croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous sommes fous, Seigneur. Cette société est folle. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Remplis nos cœurs de ce message de pardon, Seigneur, ce message de grâce. Pardonne-nous chaque fois que nous savons ce que nous faisons, Seigneur, et qu'on devient violent en nous-mêmes, en parole, en action. Et pardonne, Seigneur, à cette société. Fais grâce. Fais entendre ce beau message de l'Évangile à cette société, Seigneur, à travers nous, à travers notre attitude cette semaine, nos paroles, nos pensées, nos actions, Seigneur, que nous chérissions avec beaucoup d'amour cette vie qui est précieuse. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.